Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être venus jusqu'à nous ici à la station Ozone, alors le studio et la scène de la librairie Mola à Bordeaux, pour assister à cette conversation et ce débat également, car vous pourrez poser des questions en fin d'exposé, avec deux artistes qui vont présenter un opéra pratiquement inconnu. Il a été donné à Salzbourg récemment, en 2023, mais ici en France, on le redécouvre complètement. C'est la Passion grecque de Bohuslav Martinů, compositeur tchèque. Et donc, nous sommes en compagnie de Raphaël Pichon, le chef d'orchestre et créateur de l'ensemble Pygmalion, qui est aussi l'initiateur du festival Pulsation, et de la metteur en scène, donc, qui a mis cet opéra en scène et qui aura lieu donc au mois de juin pendant le festival, qui est Juana Inés Cano d'Espero. Voilà, Respero, qui est autrichienne. Voilà. Alors, tous les deux, vous avez déjà travaillé ensemble. Hein, vous vous êtes rencontrés autour de Samson, qui a été donné à Aix-en-Provence l'été dernier. Donc, ce n'est pas une première, mais on va quand même parler de votre relation artistique et la manière dont vous êtes rencontrés autour de ce projet. Alors, quelques mots sur le festival Pulsation. Pulsation, donc, qui est un rendez-vous qui a lieu désormais tous les deux ans à Bordeaux, initié par Raphaël Pichon, qui a débuté en 2020. C'est la quatrième édition. L'ouverture, ben, c'est déjà ce week-end. Il y a des avant-concerts ce week-end. Dès demain soir, voilà, au château Ikem. Donc, on peut encore y aller, là.
Absolument. Je vous invite, voilà. Je vous invite tous à nous rejoindre demain soir à Ikem, qui est un lieu absolument extraordinaire. Un vin, une étiquette qui n'est plus à présenter, mais un lieu extraordinaire. Nous aurons la chance d'avoir un trio, un magnifique trio de voix féminines qui s'appelle la Néréide et qui vous emmèneront à travers, vous déambulerez avec elles dans différents endroits du château, en extérieur, et ensuite, vous aurez la chance de les entendre un peu plus longuement dans la cour.
Fabuleux. Donc, ça a déjà commencé, le festival. L'ouverture officielle, la grande ouverture, c'est le 20 juin jusqu'au 5 juillet, avec des événements phares. Alors, dans ces événements, ben, il y a les Indes Galantes qui seront données par Leonardo Garcia Alarcón. Ce sera l'auditorium avec de la danse qui sera menée par la chorégraphe Bintou Dembélé, extraordinaire dans son contact avec la scène, qui est initiatrice du hip-hop en France, mais qui a évolué vers une danse tout à fait singulière, qui est vraiment la sienne. Il y a Mozart l'Enchanteur, qui sera un grand concert donné avec l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine au Jardin Public, puisque chaque année, à chaque édition, le Festival Pulsation explore des lieux nouveaux, des endroits nouveaux. Il y aura également à la base sous-marine, retour à la base sous-marine avec toutes nos émotions des précédentes éditions, cette fois avec les sonneurs de Erwan Keravec, qui va faire sonner les cornemuses dans la tonalité d'ut et de la pièce de Terry Riley, pièce minimaliste américaine. Encore l'église Notre-Dame, et toujours l'église Notre-Dame, et ce sera cette fois pour Luciano Berio, fêté le centenaire en fait de la naissance de Luciano Berio. Et puis un nouveau récital aussi, là je donne uniquement les points forts, de Sabine Devielle, que vous pourrez entendre dans des mélodies et dans de la comédie musicale, qui est un répertoire nouveau pour elle avec deux concerts. Le concert de clôture, ce sera à la Halle 47 de Floirac, avec une grande symphonie de Goreski, qui est un compositeur polonais. Voilà pour les points forts de cette quatrième édition. Et donc justement, la Halle 47 de Floirac. Donc si vous voulez bien, on va commencer en parlant de ce lieu que vous, Bordelais, vous connaissez bien, puisque c'est une ancienne, un ancien hangar industriel, et qui est en transition, si l'on peut dire, depuis quelques années, puisque cette grande friche industrielle accueille plusieurs activités culturelles, un salon de la BD, on y donne du cinéma aussi. Mais je reviens en 2023 Raphaël, quand tu as découvert ce lieu et quand tu as décidé donc de donner Orphée Eurydice de Gluck, qui a été le démarrage, je dirais, de ces trois années jusqu'en 2026, hein, de trois années d'activité culturelle dans cette Halle 47. Est-ce que tu peux revenir sur ce lieu, parce que c'est ce lieu qui va accueillir donc la passion grecque de Martinou pour ses quatre représentations, 24, 26, 28 et 29 juin, pendant le festival Pulsation.
Alors, bonsoir à vous tous. Effectivement, je dirais que l'essence même, la raison mère de la naissance de ce festival, c'est de se créer un espace à part où l'on quitte l'institution et où l'on explore. Et vous voyez, à l'image de cette programmation de cette année, beaucoup de compositeurs qui sont assez méconnus, un peu dans l'ombre, Goreski, Martinou, même Terry Riley, certaines œuvres de Luciano Berio, tout ça. Donc, allez voir un petit peu ailleurs si on y est. Et c'est donner la possibilité d'aller découvrir des chefs-d'œuvre oubliés et aussi d'explorer énormément la question du format. Et pour explorer la question du format et comment raconter une histoire différemment à notre public, comment regarder les œuvres et le répertoire de manière différente. Évidemment, cela passe aussi par l'espace. Et donc, chercher, se mettre en quête d'espaces complètement inédits qui doivent posséder une acoustique exceptionnelle et qui doivent nous mettre face à un gigantesque point d'interrogation, puisque ces espaces sont souvent gigantesques et que donc ils vont nous obliger à bouleverser un peu notre rapport à la scène et peut-être renouveler un peu le regard sur l'opéra, peut-être aussi, je le crois fondamentalement, attirer de nouveaux publics, faire tomber certaines barrières et permettre, pour ceux qui sont déjà acquis à la cause ou des mélomanes avertis, eh bien, là, découvrir des répertoires rares, et pour d'autres, peut-être de venir à l'opéra par ces répertoires rares et aussi par ces lieux un peu inédits. Et donc, nous avions eu la chance, pour la première édition, de pouvoir démarrer dans ce lieu extraordinaire qu'est la base sous-marine. C'était le Covid aussi, donc le Covid, j'oserais dire, la crise sanitaire l'a permis. Aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué de se relancer dans de tels spectacles, aussi parce que Bassin de Lumière et leurs activités sont très prenantes ici. Je parle du musée qui est dans la base. Et donc, je cherchais inlassablement un autre lieu, un nouveau lieu, avec un gigantesque espace et une acoustique qui permette de faire de l'opéra. La base sous-marine est formidable, pour ceux qui avaient été là, qui l'avaient vérifié, pour y déployer de la musique, je dirais, large, de la musique sacrée, par exemple, ou de l'oratorio. Mais pour de l'opéra, l'acoustique est trop longue, il y a trop de réverbération. Et donc, voilà, je rêvais de trouver un espace. Et donc, le Covid a aussi permis d'avoir du temps. Et donc, c'est une période aussi où j'ai énormément cherché des lieux à Bordeaux ou dans les alentours directs de Bordeaux. Alors, c'est passé par Google Maps. J'ai beaucoup bourlingué dans les chantiers navals, beaucoup rive droite, évidemment, autour de Darwin, derrière Darwin, des anciennes casernes de pompiers, et puis ensuite un peu plus loin, de l'autre côté de Saint-Jean et du pont de Pierre, vers effectivement tous ces larges terrains industriels. Et complètement par hasard, je suis tombé sur ce bâtiment qui était donc une ancienne usine de train. Et dans lesquels il y a un rail au milieu, les trains rentrent. Ici, ils étaient désossés et on refaisait par exemple l'intérieur des wagons, on les équipait avec des équipements neufs et hop, le train pouvait repartir. Donc, du coup, il faut s'imaginer évidemment un long bâtiment qui fait 200 mètres de long, qui est assez fin parce qu'il fait 30-35 mètres de large, pas beaucoup plus, 30-35 mètres de haut.
Donc, c'est une grande galerie finalement.
Exactement, une grande galerie. Et en fait, je l'ai vu sur Google Maps, je me suis approché, je suis rentré alors que je n'avais pas le droit, discrètement. Et puis, en fait, en rentrant à l'intérieur, j'ai été un peu soufflé par la beauté du lieu. Hein, c'est une structure entièrement béton. Et tout, un peu comme à la base sous-marine, tout de suite la sensation d'être dans un lieu qui sera tout à la fois spirituel et tout à la fois un peu tellement brut que sauvage. Et cette complémentarité entre ces deux aspects m'a beaucoup séduit. Et puis ensuite, en fait, c'était bourré de matériel de train. C'était encore abandonné. C'est pas vrai, c'était pas abandonné, mais disons que ce n'était plus utilisé depuis déjà plusieurs décennies. Et donc, il a fallu trouver le propriétaire, Accepter que le propriétaire vous prenne pour un fou absolu. Bonjour monsieur, je voudrais utiliser votre lieu pour faire de l'opéra. Donc il nous a d'abord un peu pris pour un cinglé, mais on a été bien accueillis. Donc on a découvert que ça appartenait à un groupe immobilier, Faya, grand groupe immobilier très repéré à Bordeaux. Et puis inviter à un concert, et puis un deuxième concert, et puis se rendre compte que voilà, bah, qu'en fait. Peut-être que c'était possible.
Il a fallu faire quelques travaux, je suppose.
Ah bah, il y avait des trous partout, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, ce n'était pas curé, et ainsi de suite. Et puis surtout, c'était au milieu d'un immense projet de plus de 5000 logements, l'un de ces nouveaux quartiers qui sont en train de fleurir, dû un peu au de gros chantiers euro-atlantiques, l'arrivée de la LGV, tout ça. Donc, vous le savez, même personne, parce que la ville bat au rythme des travaux depuis maintenant quelques années, mais de la gare jusqu'à Florac. Et donc, il a fallu, parce qu'il y avait une deuxième halle jumelle qui faisait le double de la largeur, qui a été rasée, juste après que je l'ai vue. Elle a été rasée, donc moi j'étais très inquiet que celle-ci soit rasée. Et puis ensuite, de discussion en discussion, de projet en projet. Et ce premier projet a permis aussi aux propriétaires, eh bien, ensemble, on a pu évoluer sur ce lieu, et en fait sur le fait que ce lieu puisse devenir un poumon culturel de ce nouveau quartier, et de faire émerger cette idée... À l'image de ces fameux tiers-lieux qui existent de plus en plus aujourd'hui sur le territoire français, dans beaucoup de villes, que ce lieu peut être un tiers-lieu et donc un poumon dans ces nouveaux quartiers où le risque de cité dortoir est réel, et où, en fait, des nouveaux quartiers où il y a encore très peu, voire pas de commerce, pas encore ou peu, ou pas du tout d'activité associative. Et tout d'un coup, un lieu comme ça peut cristalliser. Moi, c'est des questions que je trouve absolument passionnantes. Comment la culture peut venir... tout d'un coup mener une petite incursion dans tous ces enjeux aussi de territoire.
Oui, et transitoire, c'est-à-dire c'est un lieu pour l'instant enfin, qui attend, et pourtant qui recueille déjà, qui recueille donc des actions, des activités
oui, culturelles. Il y a un mois, il y a eu une première, on va dire location événementielle avec le salon de la French Tech qui a eu lieu là il y a un mois, c'était un peu une première. Parce que encore le lieu est encore vraiment, il y a encore des trous, hein, il y a encore beaucoup de travail, il n'a pas encore été réhabilité. Voilà, donc c'est pour nous et pour Juana un peu un challenge, et je dois avouer que je tire mon chapeau vraiment à toute l'équipe technique du Festival Pulsation et donc aussi de l'ensemble Pygmalion, parce que c'est sortir d'une certaine manière cette halle, réussir à la faire jouer et à la faire accueillir du public, c'est un challenge gigantesque, encore au jour le jour. Voilà. Oui. Et donc c'est une vraie aventure.
Et justement, Juana Inés, j'aurais voulu avoir votre première sensation lorsque vous avez découvert. Donc vous venez d'Autriche, vous êtes née à Graz, vous êtes autrichienne, vous vivez en Autriche. Ça va être votre première grande production en France, hormis la collaboration à Aix-en-Provence où vous étiez assistante mise en scène. Et donc, comment avez-vous appréhendé ce lieu et quelle a été votre vision, vos émotions, enfin, face à cette halle quand vous l'avez vue pour la première fois ?
Pour la première fois, j'ai reçu des photos de Klaus Gut qui m'a demandé si ça m'intéresse collaborer avec Raphaël Pigeon, si ça m'intéresse. Et moi, j'ai dit bien sûr, avec plaisir. Et dans ces lieux spéciaux, et même par des photos, ça m'a fascinée, comme tu as dit, que c'est un endroit, je dirais, parfait pour mise en scène en rêve, comme metteur en scène d'une plateau comme ça, et maintenant on trouve un plateau qu'il faut pas même construire qui est déjà là. Et moi j'adore même tous les trucs et tous les trous et tous les imperfections qu'on trouve là, parce que c'est la vraie patina que normalement on fait artificielle dans le théâtre, dans le décor. Et j'ai trouvé tout de suite que pour cette histoire, pour l'histoire de la passion grecque, c'est vraiment le lieu idéal. Et après, je suis venue à Bordeaux la première fois avril dernière année. Et on était à la halle, on a vu la première fois la halle en vrai. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans une église, presque. Mais une église un peu... détruit. Oui, encore une fois, j'étais sûre que c'est le lieu idéal pour raconter cette histoire.
Donc le lieu idéal, c'est-à-dire que vous vous l'appropriez à un moment donné ou que le lieu idéal, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous allez pouvoir le modeler ou alors que vous allez vous couler dedans. Quelle est la première réaction? C'est-à-dire vous l'adoptez en transportant votre imaginaire et la réflexion que vous avez déjà eue ou alors vous laissez le lieu vous emporter en portée de livret. Quel est le sens en fait de l'idéal?
Moi, j'ai décidé tout de suite que je ne veux pas cacher la halle, qu'il faut vraiment embrasser la halle telle comme elle est et juste ajouter des éléments, des symboles qui m'aident à raconter l'histoire, qui évoquent des émotions, des images. Parce que cette histoire, on en parle après en détail, tout se passe très, très vite. On n'a pas beaucoup de temps pour raconter l'histoire, pour introduire les caractères. Et aussi, c'est une histoire très dure. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que cette duresse, c'est un mot français,
hein? La dureté.
La dureté, merci. De temps en temps, j'en vends de mots français. la dureté, c'est exactement le béton. Ça donne vraiment, ça reflète cette dureté de l'histoire. Mais il y a des autres symboles qui sont très forts dans le livret que j'aimerais ajouter à la halle et on voit maintenant déjà, je ne peux pas en parler trop, parce qu'il faut que vous veniez pour le voir, mais tout a l'air très naturel. Alors, j'ai, comme nous, on embrasse à l'halle, j'ai aussi l'impression que la halle embrasse nous et avec tout qu'on apporte.
Merci bien. Alors, on va en parler hein, de cet opéra. Ça y est, on y arrive tout de suite. En passant un petit peu par Martinou, tout de même, hein, quand même, dire quelques mots sur ce compositeur que vous pouvez mettre tout à fait dans la suite et la filiation des grands compositeurs tchèques que sont Dvorak, Janáček, Smetana. Et lui, il arrive dans la chronologie juste après. Il est né en 1890 et il meurt en 1959. Et l'opéra, donc la Passion grecque, est son tout dernier opéra. Il faut savoir que c'est un compositeur extrêmement prolifique. Il a plus de 400 œuvres dans son catalogue et il a composé 16 opéras. Et la Passion grecque est le dernier, hein, le dernier grand travail qu'il a réalisé. Martinou est violoniste de formation et violoniste virtuose, un prodigieux violoniste. Il commence sa carrière à l'orchestre de l'Opéra de Prague. Il va être dans épaulé et un peu aidé par Joseph Souk, vous voyez, c'est tout à fait cette génération. Et puis ensuite, il arrive à Paris en 1923. Et ça, c'est intéressant parce que là, il va rencontrer Albert Roussel et on verra ensuite avec Raphaël dans les questions musicales quelle est la marque française qu'il peut y avoir chez ce compositeur. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il va aux États-Unis et là, il a un très, très grand succès lié à ses symphonies. On lui commande énormément de pièces à grand format. Alors, ce sont des grandes fresques symphoniques. Donc, il y a 6 symphonies de Martinou, beaucoup de musique de chambre et aussi des concertos. Imaginez un peu 5 concertos pour piano, concerto pour violoncelle, pour Fournier, 2, un concerto pour alto, une rhapsodie superbe à explorer. Donc, vous voyez, des grands formats, les grands formats très habitués aux grands formats. Après la Deuxième Guerre mondiale, il revient en France. Et puis là, il est un peu coincé entre Tchéquie, pas pouvoir retourner, soviétique, les États-Unis, ça va pas non plus. Donc il reste en France, il s'installe dans le sud de la France. Et là, c'est intéressant parce que c'est à cet endroit, il est installé à Nice, à Antibes. Et là, vit également à Antibes cet auteur que vous voyez ici, qui est Nikos Kazatsaki, qui est un auteur que vous connaissez peut-être sans l'avoir forcément lu, mais c'est l'auteur, vous savez, de Zorba le grec. Voilà. Il a d'abord écrit son roman et puis a été fait un film. Et puis aussi, et je dirais encore plus, voilà, encore plus connu, la dernière tentation. La dernière tentation du Christ mis en film donc, par le réalisateur Martin Scorsese. Donc ça fait au moins deux références, si vous voulez. Et Martinou écrit à cet auteur parce qu'il sait qu'il est là sur la Riviera. Il lui écrit et il lui écrit une lettre d'artiste, une très très belle lettre, lui disant voilà, je ne suis qu'un artiste d'opéra, mais je suis fasciné par vos ouvrages et j'aimerais mettre. Il voulait mettre Zorba en opéra, lui, et donc j'aimerais mettre Zorba. Pouvez-vous me recevoir et pouvons-nous parler de cela? Alors, l'auteur grec le reçoit et il lui dit c'est pas Zorba qu'il faut mettre en opéra, c'est plutôt la passion grecque, hein, qui a un autre titre qui est le Christ recrucifié et qui venait de paraître. Ouvrage qui venait de paraître de 600 pages, donc en 1954-55. Et donc là, nous sommes en 55-56. Et Martinou va donc faire établir lui-même le livret. Donc il dit que ça a été un travail herculanesque, hein, de transformer ces 600 pages en livret de 4 actes. Donc qu'il écrit lui-même, qu'il transforme lui-même pour une première version. Donc il travaille un an complet, 56-57, hiver 56, hiver 57, pour Covent Garden, sur un livret anglais. Et puis finalement, on lui refuse la création, on demande des modifications. Il retravaille encore un an, 58-59, donc deux ans donc pour remanier. Et là, il meurt en 59. Hein, et l'opéra va être créé à Zurich en 1961, deux ans après sa mort. Voilà un petit peu pour raconter les choses qui va nous permettre de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hein, donc, de quoi s'agit-il? Alors, qui nous raconte l'histoire de cette grande fresque? Il faut savoir, pour situer un petit peu cet auteur, qu'il était venu étudier à Paris aussi. Donc, je parle de l'auteur du roman, hein. Et là, il avait été très influencé par Bergson. Il a aussi beaucoup lu et écrit des textes et des essais sur Nietzsche. Il a beaucoup travaillé, été influencé par le marxisme aussi, et aussi par le bouddhisme. Et alors, si je le dis cela, c'est que la figure christique est extrêmement présente dans toute son œuvre. Et néanmoins, il a tourné le dos au christianisme pour aller vers le bouddhisme à la fin de sa vie philosophique, je dirais. Et ça n'est pas qu'un érudit de la pensée, c'est aussi un homme qui a été très, très engagé, très actif, qui a fait le tour du monde, qui est allé dans les plus grands endroits de tension politique et religieuse en son temps. Et lui-même, on va raconter l'histoire maintenant, lui-même est né en Crète. Et il a totalement vécu dans les années 1919-23 le conflit entre les Turcs, l'Empire ottoman, et les Grecs chrétiens orthodoxes. Hein, c'est une histoire totalement réelle dans sa vie qui va avoir effectivement une réalité, entre autres dans ce roman transformé en opéra par Martinou. Alors donc, le Christ recrucifié, transformé en passion grecque dans le changement de titre par Martinou, c'est à Martinou qu'on doit le changement. Donc de quoi s'agit-il? Alors qui nous raconte l'histoire de l'opéra? On va laisser de côté le livre, mais vous avez vu qu'il est exposé ici et que grâce à la librairie Mola, vous pouvez vous replonger dans les 600 pages en attendant l'opéra si vous le souhaitez. Peut-être Juana.
D'accord. C'est la fête de Pâques dans un petit village grec qui s'appelle Lycovrissi. On vient de connaître le prêtre Grigoris qui nous présente ceux qui sont choisis pour jouer le Christ, aussi Judas, la Marie-Madeleine. Alors, on retrouve vraiment les apôtres et les caractères plus importants de la Bible. Et ça, je trouve vraiment génial dans cette œuvre qu'on a un jeu dans un jeu. Et on a les apôtres qui sont élus. Il y a aussi Giannakos qui joue Pierre, l'apôtre. Il y a Constantis qui joue l'apôtre Jacques.
Donc, ce sont des gens du village.
Et tous des gens du village. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont pas, elles sont plus ou moins le contraire des apôtres qu'ils jouent. Alors, tout le monde, Giannakos, par exemple, c'est un marchand qui triche beaucoup. Il y a un film qui existe, et là, il y a une scène, par exemple, où il ouvre toutes les lettres qu'il doit apporter aux gens en secret pour savoir...
Et lui, il devait être l'apôtre Jacques.
L'apôtre Pierre.
Oui, c'est lui. Pierre.
Pierre. L'apôtre Jacques, c'est Constantis. Il y a un café et il met toujours de l'orge dans le café. Alors tout le monde triche. Après, on a Michelis, qui est le chouchou, on dit comme ça, oui. Le chouchou du prêtre, qui veut être le Christ, mais il est l'apôtre Jean, l'apôtre que Christ aimait, on dit. Et on a le jeune berger Manolios. C'est lui qui va jouer le Christ. C'est un personnage très, très doux, plutôt fin, un peu timide. Et je pense que le conflit est déjà là. Il n'est pas, trop content qu'il ait élu comme le Christ, mais il se pose tout de suite la question... où il doute qu'il est digne d'être le Christ. Après, on a Panaïte, qui doit être le Judas. Lui aussi, pas du tout d'accord avec cette joie. Parce que ça, c'est intéressant, avec Panaïte et Katharina, qui jouent la Marie-Madeleine. Ils sont élus pas par le prêtre, mais pour le villageois. Alors, ça veut dire un peu que les deux, ils jouent ce rôle presque toute l'année, pas seulement pendant la passion du Christ. Alors, on observe un peu comment les élus, ils ont des doutes avec leur rôle. Et tout à coup, il y a un groupe de réfugiés d'un autre village grec qui arrive et qui demande de l'aide. Et ça, je trouve très beau dans l'opéra. Il demande une pièce de la terre. Il demande de la terre pour mettre ses os, pour construire une maison. Et une terre. Merci. Une terre.
Pour s'installer, se poser.
Pour s'installer.
Nous sommes en Anatolie.
Oui.
Hein, donc on est bien en Turquie. Et nous avons ce village qui est grec. Chrétiens orthodoxes, voilà. Et des réfugiés grecs, ils sont fait brûler leur village par les Turcs, arrivent dans ce village grec qui est bien installé. Donc ils cherchent une terre et donc ils vont s'adresser au pope, le fameux patriarche, chef du village qui distribue les rôles pour jouer la passion avec ses villageois et ils demandent donc une terre d'accueil.
C'est ça. Et bien sûr, le prêtre Grigoris, il n'est pas du tout d'accord. Il invente le choléra pour chasser les réfugiés du village. Et à la fin, il s'installe à le mont Sarakina, qui est près du village. Il y a Manolios, et les autres apôtres qui, plus en plus, s'identifient avec leur rôle de la passion et qui se sont responsables d'aider aux réfugiés pour s'installer à la montagne et pour les aider à survivre. Parce qu'on va bientôt voir que cette montagne, elle n'est pas trop chaleureuse.
Alors, j'imagine la figure christique, enfin, j'imagine Jésus. Le jeune berger qui incarne Jésus va être... le protagoniste, le principal personnage qui veut aider, n'est-ce pas, puisqu'il a cette mission. Il veut aider, mais ça ne va pas se passer comme il l'entend. Il veut aider les réfugiés.
Il veut aider, et ça je trouve, c'est un conflit très actuel. Comment est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on peut sauver le monde? Est-ce qu'on peut sauver tout le monde? Et on voit plus en plus comme il a des cauchemars, il est désespéré pour tout ce qui se passe dans le village. Et il y a aussi un conflit avec Lenio, sa fiancée. Aussi, il n'est pas sûr en fait s'il est amoureux de Katharina ou pas. Et le conflit de se consacrer à une seule mission, parce que c'est ça que le prêtre lui dit, il faut se consacrer à une seule mission et devenir digne. Il a des difficultés à arriver à être digne. Et à la fin, on voit qu'il y a un conflit entre le prêtre qui veut chasser et qui excommunier en fait Manolios du village.
Donc Jésus.
Donc Jésus. Oui.
Quelle hypocrisie quelque part, puisque on retrace la passion, mais on rejette en même temps. Enfin, il y a un paradoxe gigantesque là, non, Raphaël, concernant ce pope. Et parce que les réfugiés sont aussi encadrés par un patriarche. Il y a aussi un autre personnage qui guide, n'est-ce pas?
Il y a Fautis, c'est le prêtre de réfugiés. Et ça, je trouve très intéressant et très important dans l'histoire qu'on a de Grecs contre de Grecs, en fait. Et c'est... Et on voit s'il y a des problèmes ou un manque de ressources, déjà le village voisin, ça devient utile. Et aussi de différentes idées du prêtre et de différentes idées dans la même religion, comment se soutenir l'un à l'autre. Et comment peut-être même guider la communauté religieuse, c'est ça? Ok. Et que là, il y a vraiment des différentes idées. Et à la fin, on a trois groupes. En fait, on a les apôtres qui sont au milieu de ce conflit. On a les villageois et on a les réfugiés. Et j'avance vers la fin. Tout à coup, cette passion grecque, ça devient réalité. Et c'est vraiment à la fin Manolios, le Christ, qui meurt, qui est tué.
Qui est poignardé, deviné par qui? Judas. Mais bon, on ne va pas la faire, hein, puisque l'histoire, quelque part, se répète. Mais Raphaël, dans la manière dont Juana Inès s'empare du livret, on passe à la fois par l'aspect psychologique intimiste des personnages, leurs problématiques internes, personnelles, à incarner le rôle qui leur a été imposé, et puis le rapport au collectif avec des groupes. Vous avez décrit les trois groupes, finalement, et le collectif. Et j'imagine que cela, dans la dramaturgie générale et musicale, finalement, fabriqué par Martinou, puisque c'est Martinou qui écrit le livret, donc c'est lui qui est le maître de la mise en scène des psychologies et des situations, n'est-ce pas? Je suppose que musicalement, cette construction générale de plus de 2h40, c'est ça, de
deux petites heures,
deux heures avec l'entracte, voilà, 2 heures de spectacle, va compter pour Martinou. C'est-à-dire, comment gère-t-il musicalement l'aspect psychologique si finement montré par la metteur en scène, et l'aspect collectif des grands groupes avec des chœurs, et on va parler des effectifs.
Moi, ce que je trouve absolument passionnant avec cette pièce, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient la rattacher à une passion de Bach. C'est-à-dire, effectivement, cette alternance permanente entre le « nous » et le « je », entre la parole collective et la parole individuelle, où l'une éclaire l'autre. Et comme dans la Passion selon saint Matthieu, on a ces deux chœurs et ces deux orchestres, on est en permanence soit en opposition, soit dans un jeu de questions qui appellent et qui cherchent des réponses. Et c'est ça qui fait aussi de cette passion grecque une sorte de nouvelle parabole. C'est une parabole, mais qui aujourd'hui, comme le disait Juana, une parabole qui devient réalité, qui tout d'un coup s'ancre dans le réel. Et ce qui est passionnant aussi, c'est de se rendre compte que et Martinou et Kazantzakis sont tous deux eux-mêmes des exilés, sont tous deux eux-mêmes des réfugiés. Comme tu le présentais tout à l'heure, à son retour des États-Unis, il y a quelques lettres d'ailleurs assez bouleversantes où il exprime ça. Il avait un ami et mécène pendant toute sa carrière qui était Paul Zacher, et où il raconte quand il était aux États-Unis, il était en permanence soupçonné d'être un espion soviétique. Et quand il rentre en Tchéquie après la Seconde Guerre mondiale, ou qu'il essaye de rentrer en Tchéquie, il est devenu un suppôt américain. On le traite de renégat, on le traite de vendu. Et donc, c'est un homme qui, en fait, n'a plus de terre et qui vient chercher en France une sorte d'asile. Kazantzakis, c'est pareil, parce que c'est un homme qui est banni, qui est excommunié, comme les Manolios dans notre opéra, comme va l'être bientôt le Jésus par le pope du village, alors que c'était lui qui avait été choisi. Eh bien, Kazantzakis est aussi banni pour les propos de ses romans, parce qu'effectivement, ses romans sont très acerbes sur l'institution qu'est devenue l'Église orthodoxe et sur, évidemment, ses liens intimes où, à cette époque-là, évidemment, l'Église orthodoxe a, d'ailleurs encore en partie, mais en Grèce, mais avait un peu les pleins pouvoirs. Donc, je crois que cette œuvre, elle cherche, par la parabole, à tout d'un coup créer une sorte de sursaut, c'est-à-dire nous mettre face, l'homme occidental, face à l'héritage des grandes valeurs judéo-chrétiennes, les grandes valeurs humaines chrétiennes, et tout d'un coup, de nous mettre face à ses obligations envers l'humanité. Tout d'un coup, poser les vraies questions de comment s'appliquent aujourd'hui ces, pour lui, soi-disant valeurs face aux réalités de l'humanité
et à la contradiction.
Voilà, et à la répétition inlassable de ce même cercle de violence, de ce même cercle de colère. Et ça, c'est absolument passionnant parce que, en plus, à vrai dire, en tout cas dans l'opéra, dans le livret, mais on ne sait pas trop à quelle époque ça se passe. Ça pourrait se passer à n'importe quelle époque. La question turque, la question de ce machin, tout ça n'est pas vraiment existant. L'enjeu est ailleurs. L'enjeu est sur cette répétition inlassable et sur ce qui se cache derrière les apparences, sur le fait qu'un jour réfugié, un jour villageois, et que les choses pourraient s'inverser. Et donc, comme dans La Passion selon saint Matthieu, aussi une signature musicale très forte, parce que c'est un opéra très choral, avec beaucoup de chœurs, avec des chœurs qui ont vraiment une importance considérable, en deux groupes, le chœur et ses rôles des réfugiés, et le chœur et ses rôles des villageois, et parfois ces chœurs qui se répondent. Donc voilà, évidemment, je crois que c'est la première chose moi qui m'a attiré musicalement dans cette œuvre. C'est aussi parce que c'est là où il y avait un petit chemin pour nous par rapport à l'histoire de notre répertoire et de tout d'un coup aller s'immiscer, par contre, dans un langage musical qui, pour le coup, pour nous, est un vrai saut dans le vide.
Alors justement, ce langage musical, parce que on sait que Martinou a toujours tenu très fortement à la musique populaire tchèque, comme tous les prédécesseurs dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, mais pas que. Là, il fait des références aussi au chant orthodoxe. Il y a une modernité incroyable d'harmonie dissonante aussi. Donc c'est assez hétéroclite, non ?
Bien sûr. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a énormément reproché, qu'on reproche encore parfois à ce compositeur. C'est que c'est un compositeur très kaléidoscopique, c'est-à-dire qu'il, tu rappelais sa présence auprès d'Albert Roussel en France, où il va découvrir toute la grande école française du premier 20e siècle, être influencé énormément par tout cela. Et puis, alors, il y a évidemment tout son folklore personnel, le folklore tchèque. Ensuite, il y a son épopée américaine où il va être
grandiose.
Voilà, où il ira à la fois Schoenberg, plus tard Stravinsky, mais aussi il connaît très bien la musique allemande et tout ça. Donc, en fait, c'est un homme qui ne choisit pas. Et ça, je trouve ça passionnant parce que pour la passion grecque, ça a des conséquences très, très, très nettes, très, très claires. C'est-à-dire que vous n'avez pas affaire à un langage, mais à une multiplicité de langages. Il a demandé à ce qu'on lui envoie des partitions au moment d'écrire la passion grecque. Il a demandé à ce qu'on lui envoie des partitions des opéras de Monteverdi, l'Orphée et la Popée. Il a demandé à ce qu'on lui envoie des opéras de Purcell. Je pense qu'il voulait étudier le récitatif, notamment, la question du recitar cantando. Voilà. Et il a aussi beaucoup demandé à ce qu'on lui envoie des missels. Il a aussi demandé à ce qu'on lui envoie de Grèce, des expressions très claires, des partitions de ce que c'est que le chant orthodoxe. Et voilà une partition où vous avez beaucoup d'un truc que j'avais jamais vu avant, qui est une sorte de style liturgique, où c'est un peu comme à l'office orthodoxe, donc de la psalmodie, un peu du plein chant à l'orthodoxe. Vous avez donc ce grand style sacré, qui évidemment est beaucoup pour les deux popes. Ensuite, vous avez un style très profane pour les petits personnages de tous les jours, un peu étranges, qui semblent un peu naviguer sur de la musique un peu justement proto-folklorique, avec des hautbois qui imitent une bombarde, une vieille chanson. Et puis ensuite, vous avez un grand style pour les grands chœurs, très impressionnant, avec des choses plus ample, qui regarde aussi parfois un peu du côté de la musique allemande. Mmh. Et puis ensuite, vous avez ces moments de rêve, de cauchemar, ces moments de contemplation, où là, on a cette transparence à la française, et des choses qui papillonnent, qui babillonnent, très, très, très légères, comme on peut l'entendre encore dans la musique française de cette époque-là. Vous avez aussi des grands élans épiques, lyriques. On a l'impression d'entendre le dialogue des Carmélites de Poulenc,
notamment dans la voix de la veuve.
De la veuve Caterina, absolument. Voilà, une expression plus pathétique. Oui. Donc c'est un compositeur qui ne choisit pas. Donc tout ça peut paraître un peu découpé. Enfin, comment on pourrait dire ça,
Décousu.
Décousu, voilà. Et en fait, non, parce que tout ça s'enchaîne sans qu'on ait le temps de comprendre. Et alors, comme l'a dit Juana, c'est vrai qu'il y a une difficulté pour le. Alors, il y a une difficulté, j'en parle tout de suite, mais c'est que je vois, là, on est à la fin de la première semaine, ça fait 9 jours qu'on répète. Avec les musicales. Ouais, 7-8 jours, quoi. Mais c'est rentrer dans ce langage. Rentrer dans ce langage pour les chanteurs, parce qu'en fait, on est loin de ça. On est loin de ça. Alors qu'en fait, à la réception, c'est très simple. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très direct comme opéra. C'est pas compliqué à écouter. C'est même pas compliqué du tout. Mais par contre, à faire, il faut un petit temps d'adaptation pour comprendre où est-ce qu'on est.
L'écriture chorale, y a un semblant d'imitation des coryphées grecs. Donc c'est très rythmique, très vertical. On n'est pas dans une polyphonie.
Il y a un peu de contrepoint, mais c'est.
Ah, il y a quand même un peu.
Un peu de contrepoint, mais c'est essentiellement. C'est de la musique néoliturgique grecque mélangée un peu avec les vibes de Rachmaninov, si vous voulez.
Oh là 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 là.
Alors, c'est souvent très impressionnant. Il y a beaucoup de pages qui sont très impressionnantes.
Alors, à la fois, on a pu critiquer, les exégètes ont critiqué ce style de Martinou, et en même temps, ils l'ont aussi rapproché, par exemple, de Gustav Mahler, auquel on reprochait, on faisait les mêmes critiques, c'est-à-dire les grandes fresques symphoniques, et puis des éléments populaires, des éléments, on va dire, vulgaires dans le sens vulgaré, des éléments...
Sans certaines grandes figures des années 60-70, Mahler n'aurait peut-être pas le succès. Enfin, il a été boudé quand même pendant un demi-siècle. Donc,
Donc il y a cette chose-là en commun. Alors, comment avez-vous travaillé tous les deux ? Comment s'est passé le travail, la lecture du livret, le travail du projet à tous les deux? Comment ça a fonctionné pour mettre en scène, pour monter cet opéra à deux?
Bon, je pense qu'on avait vraiment de la chance de travailler à Aix ensemble dès le dernier été. Alors, si on avait du temps, entre les répétitions des chansons, on s'est retrouvés pour parler
déjà sur Martinou.
Déjà sur Martinou, qui est une cosmos très différente. Mais en même temps, c'était intéressant parce que Sanson et le conflit qu'on avait là, c'est aussi... c'est pas loin. C'est pas loin, mais ce que j'ai dit avant, ça m'a fasciné toujours et encore... que c'est de grec entre les grecs. Alors, c'était pour nous très important du début, vraiment, comment est-ce qu'on montre le deux groupes? Est-ce qu'il y a vraiment deux groupes ou c'est une seule groupe? Un jour, on est villageois, l'autre jour, on pourrait être apôtre, l'autre jour, réfugié, parce que la vie, ça change vite. Et demain, ça pourrait être nous. Et de se poser cette question, en fait, et se dire comment est-ce que j'aimerais être reçu à l'étranger, à l'autre village? Qu'est-ce que je porterais avec moi si je devrais fuir? Comment est-ce qu'on utilise la halle avec l'acoustique? Et bien sûr, la question de participation, ça, c'est aussi une chose que m'a attirée beaucoup. On travaille ensemble avec des chœurs locaux et aussi des enfants. Et on cherche encore des figurants, si ça vous intéresse.
D'accord. C'est un appel, donc. Oui, c'est-à-dire l'effectif. Donc, il y a Pygmalion, chœur et orchestre, oui. Mais aussi le chœur Java, hein, avec les enfants, et un chœur amateur également.
Alors, un chœur ad hoc, c'est-à-dire que on a fait presque une centaine d'auditions juste avant Noël dernier. En proposant à tous les chanteurs amateurs bordelais ou d'Aquitaine qui souhaitaient nous rejoindre, de venir former un deuxième chœur. Donc c'est à peu près 25 chanteurs qui viennent de plein de structures différentes ici à Bordeaux, de tous les âges. C'était aussi important pour nous que cette pyramide des âges de ces villages commence avec des tout jeunes aux moins jeunes. C'est pour ça aussi qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des pages demandées, chantées par les enfants. Il y a des vraies pages de chœur d'enfants dans la partition. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque l'orchestre est sur scène, il n'y a pas de fausse, évidemment, dans cette halle. Vous verrez, l'orchestre est intégré à la scène. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de 120 sur scène. Donc, c'est une grosse machine.
Et donc, encore des figurants. Il faut encore des figurants.
Il faut encore des figurants. Et je vois déjà des candidates idéales. Les répétitions commencent dimanche. Et on a fait aussi des workshops en avance. Ça, c'était aussi pour moi important, que, surtout pour les enfants et les amateurs, on lui donne un peu d'avance. Et pour moi, c'était bien sûr important de les connaître, et aussi pour voir qu'est-ce que je peux faire avec eux, comment est-ce que ça va avec mon français. Je voulais bien faire toutes les répétitions en français, surtout, mais des fois, il y a du vocabulaire qui me manque, mais quand même, ça s'est bien passé. Et dimanche, on se retrouve la première fois à la halle.
Pour les quatre représentations. Alors, avant de passer à vos questions, donc aux questions du public, je voulais juste poser une dernière question à Raphaël concernant la version, parce que cette œuvre, comme je vous l'ai signalé, a eu une première version en anglais, remaniée. La création s'est faite à Zurich, encadrée par Paul Zacher en allemand. Ensuite, il y a une version française en 1964. Donc là, quel a été ton 64 et ensuite à Paris et ensuite 73 à Rouen.
Ah oui, excuse-moi.
Voilà. Et donc la question est, quel choix as-tu fait, puisque à Salzbourg, on a eu donc avec Maxime Pascal en 2023 une version originale entre guillemets anglaise, c'est-à-dire la version de Zurich qui est la deuxième, en reprenant le texte anglais. Bref, quels sont les choix et quel est le travail, je crois, conséquent que tu as dû faire sur le livret pour la version que tu nous proposes dans Pulsation.
Ouais. Alors, effectivement, tu as absolument raison. Ce que l'on sait, c'est que il y avait beaucoup de touches avec beaucoup de maisons au moment où Martineau écrit. On lui avait promis que l'opéra serait créé un peu partout. Et il avait aussi ce souhait. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que finalement, cet opéra, il est né en France. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il est né à Nice. Et c'est cette terre de refuge qu'était la France qui avait accueilli ces deux artistes qui ont pensé cet opéra ensemble ici sur le territoire français. Et on sait aussi que Martineau avait ce vœu que la Passion grecque devienne aussi un opéra en français. Et donc, c'est fait quelques années après sa mort. Moi, c'est cette version-là qui m'a intéressé.
La version française.
Donc, oui, alors cette version française qui se base sur la version dite de Zurich, donc la seconde version. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première version est plus longue, plus ardue, plus complexe, passionnante, mais beaucoup plus ambitieuse à beaucoup d'égards. Et alors que ce qui signe cette version de Zurich, cette seconde version, c'est que c'est plus court, c'est plus ramassé, il y a moins de personnages, ça va plus vite au but, c'est plus choral. Donc c'est aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc moi, je me suis plongé dans cette version française. J'étais très désarçonné de voir que la version française qui avait été faite omettait presque la moitié des informations en fait réelles du livret en anglais et en allemand. Et donc,
c'était des informations parlées ou c'était lié
non,
au
le
chant,
fait que
ça coupait de la musique.
Ouais, dans le choix de la traduction, c'était, je trouvais que c'était très sommaire. Et puis aussi, tout simplement, une question un peu de génération, je pense, et d'époque. C'est-à-dire que c'était un français très daté. Mais oui, je trouve pas compréhensible. Et puis, utilisant des idiomes vraiment de cette époque-là. Puis, c'est une époque aussi où on se pose beaucoup de questions sur le parler-chanter à cette époque-là. C'est toute une époque, la musique française des années 60-70. Bref, je trouvais ça pas du tout convaincant. Et surtout, Pulsation, c'est aussi ça. C'est aussi, si on se retrouve en face d'œuvres oubliées, dans de telles... avec de tels livrets, de telles histoires, je trouvais que c'est très important ce rapport à la langue. Comment est-ce que ces œuvres peuvent nous parler? Parce que tout de suite, elles ont ce ton... Bien sûr, elles ont ce ton très direct. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à la manière dont Martinou a travaillé sur cette adaptation française de Juliette. Et en fait, grâce à certaines personnes qui sont ici devant vous, on a eu des longues discussions, parfois ardues, avec l'Institut Martinou et la Fondation Martinou, donc, c'est-à-dire les ayants droit, ceux qui veillent à l'héritage et à l'œuvre de Boïslav Martinou, et aussi avec les éditeurs et tout ça, pour, entre guillemets, avoir l'autorisation, en fait, de refaire une nouvelle version française. Voilà. Et moi, donc, en refaisant cette nouvelle version française, je me suis intéressé aux différents livrets. Alors, je ne parle pas du tout de tchèque, hein, mais genre, voilà, et maintenant, il y a des bons outils pour traduire. Mais en repartant à la fois du livret tchèque qui avait été signé un peu plus tard par Martinou, du livret français, du livret anglais, et en partant de ces différentes données et dans les différentes versions, faire naître une nouvelle version française, mais qui n'est pas vraiment une traduction, qui est plutôt ce qu'on appelle une adaptation, c'est-à-dire avec ce nécessaire travail d'adaptation à la prosodie. Parce qu'évidemment, la langue tchèque...
gigantesque, c'est-à-dire que tu as dû revoir à la fois la construction du livret, la répartition, et puis, oui, la prosodie musicale.
Alors, avec Rana, on a fait beaucoup de choix sur des coupes, sur aussi quelques petites choses de l'autre version qu'on est revenu remettre dans la première. Donc, c'est un travail un peu sur mesure, à la fois dans l'organisation dramaturgique de la partition, et aussi dans ce travail un peu d'adaptation, c'est-à-dire parfois changer un peu le rythme, parce qu'évidemment, l'accent tonique de la langue française est tellement... Alors, autant avec l'anglais, parfois c'est compliqué avec l'anglais, mais avec le tchèque, n'en parlons pas. Et d'ailleurs, surtout que le tchèque, il faut souvent... j'ai toujours rien compris à cette langue, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai identifié aussi, c'est que souvent, il faut presque deux fois plus de mots en tchèque pour dire ce qu'on pourrait dire en français. Donc, vous imaginez ensuite la question du maître et du rythme, et donc de cette fameuse question de la prosodie, en essayant de ne pas trop trahir la musique originelle, donc lui conserver sa singularité, tout en trouvant un bon équilibre avec la sensation que ce qu'on ait l'impression d'entendre du français malgré tout. Donc c'est des petits jeux d'équilibre.
Voilà. Et il a fallu faire valider cette version par les ayants droit, la Fondation.
Oui, enfin, ils ont demandé à voir un certain nombre d'extraits, ils ont demandé à m'entendre sur comment ce travail a été effectué. Et aussi parce que c'est une nouvelle orchestration qui sera créée dans quelques jours. Une orchestration par un travail magnifique fait par Arthur Lavandier, qui est à la fois un compositeur et un arrangeur. Parce que la partition, en fait, originelle, elle demande un orchestre de plus de 90 musiciens. Donc c'est une énorme machine, normalement. Et d'ailleurs, au moins 250 choristes. Donc l'idée, c'était de faire naître... Alors, on ne peut pas vraiment dire une version de chambre à 120, parce que ce n'est pas vraiment chambre... Mais en tout cas, quelque chose qui ait des dimensions réalistes pour un festival comme Pulsation, ou peut-être aussi plus tard pour une maison d'opéra. Voilà, parce que évidemment, déployer de telles forces, à part au festival de Salzbourg, c'est compliqué.
Bon, déjà, bravo pour tout ce travail en amont. Toi, toi pour les répétitions. On va se quitter ici pour le direct. Donc, je rappelle les dates. Hein. 24 pour la première, 26 juin, 28 juin, 29 juin, 4 représentations. La Passion grecque de Martinou. Merci à tous les deux. Et puis donc, longue vie à cette recréation donc française. Merci à vous deux. Merci.
Merci.